おかぴおかぴおかぴ。
Bonsoir, bienvenue dans cette tribune de la presse qui vous propose ce soir trois thèmes. D'abord, vote lundi dernier au Sénat du projet de loi sur la CENI. Ensuite, visite des deux personnalités cette semaine en République démocratique du Congo. Il s'agit du conseiller spécial du président Barack Obama pour la région des Grands Lacs, ainsi que de la ministre suisse des Affaires étrangères. Et enfin, fonctionnement des assemblées provinciales. En province orientale, les députés exigent la démission du bureau. À l'Équateur, celle du président et au Katanga, les sièges de l'assemblée provinciale est toujours scellé. Trois confrères sont avec moi dans ce débat. Il s'agit de Freddy Monsa, il est directeur de publication au quotidien Le Potentiel, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Rombo Otaba, il est journaliste au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît aussi à Kinshasa. Et Olivier Baraka, il est journaliste au journal Le Miroir de l'Est, c'est un journal qui paraît à Beni, Nord Kivu, et distribué sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vote du projet de loi sur la CENI, visite des personnalités en République démocratique du Congo, ainsi que l'état des lieux sur le fonctionnement des assemblées provinciales. Tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment les différents journaux quinois ont traité ces sujets? Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa sont revenus sur l'adoption au Sénat du projet de loi sur la Commission électorale nationale indépendante. La tempête des tropiques signale une cacophonie qui a existé entre les deux chambres du Parlement congolais. Selon notre confrère, après son amendement et son adoption par le Sénat, le projet de loi sur la composition et le fonctionnement de cette Commission électorale nationale indépendante risque d'attendre longtemps pour être promulgué suite aux divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Pour la prospérité, l'adoption de cette loi au Sénat consacre la mort prochaine de la CEI de Malumalu. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la visite en RDC de l'émissaire du président américain Barack Obama. Pour le palmarès, aussitôt arrivé à Bukavu, Howard Wolf, conseiller spécial du président américain pour la région des Grands Lacs, a salué le rapprochement entre Kinshasa et Kigali. L'avenir de son côté pense que la visite de l'émissaire américain sur le sol congolais est la preuve de l'implication de Barack Obama pour le retour de la paix en RDC. Pour le Phare, Kinshasa doit savoir parler à Obama au sujet de l'insécurité à l'est du pays. Terminons cette revue de presse avec la situation des assemblées provinciales à une année de la fin de la législature actuelle. Au Katanga, Ouro annonce un retournement spectaculaire à l'assemblée provinciale de cette province. Ceci suite à une réconciliation qualifiée d'étrange par ce journal entre le président de l'assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kyungwa Kumwanza, et les députés tabassiers.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Freddy Monsa, vous êtes directeur de publication au quotidien Le Potentiel. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et comment jugez-vous la manière dont la presse quinoise a analysé l'actualité cette semaine?
Ben, écoutez, je n'ai pas de leçon à donner à mes confrères. Chacun essaie de faire ce qu'il peut faire suivant sa ligne éditoriale. Chacun fait ce qu'il fait selon les capacités de ses journalistes. Je crois que dans l'ensemble, la presse congolaise, à travers aussi la presse quinoise, on essaye de se surpasser pour répondre aux préoccupations des lecteurs.
Rombo Otaba, vous êtes journaliste au quotidien L'Observateur, c'est un journal qui paraît aussi ici à Kinshasa. Est-ce que vous pensez qu'il y a une information qui, selon vous, est importante, mais qui n'a pas été évoquée dans la presse de cette semaine?
Non, je ne vois pas quel sujet a échappé à l'analyse de nos confrères, mais je souligne quand même qu'il y a un fait qui a été abondamment commenté.
Lesquels?
Je ne sais pas, il faut appeler ça bilan ou quoi, que, disons la conférence de presse du Premier ministre.
Mais tenu le week-end dernier.
Oui, ça a été commenté longuement durant la semaine. Bon, peut-être faute de temps, nous n'avons pas, nous n'allons pas commenter là-dessus. Mais en tout cas, c'est un des événements majeurs qui a été commenté pendant la semaine.
Merci Olivier Baraka, vous êtes journaliste au journal Le Miroir de l'Est. C'est un journal qui paraît à Beni, au nord Kivu, et distribué sur toute l'étendue de la RDC. Quelle est l'actualité qui a dominé au nord Kivu pendant cette semaine?
Différentes rédactions ont traité l'information de façon disparate. Néanmoins, à Goma, l'actualité reste dominée par la démolition des maisons construites anarchiquement sur les grandes artères de la ville. Une initiative du maire de Goma qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Goma Ville Propre.
Merci. Nous passons à notre premier thème de ce soir. Vote lundi dernier au Sénat du projet de loi sur la CENI. À Kinshasa, le Sénat a voté lundi dernier à une plus large majorité les projets de loi qui portent sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Les sénateurs se sont félicités de cette avancée sur les standards internationaux. Même son des cloches du côté des organisations non gouvernementales spécialisées dans les questions électorales. Face aux divergences apparues à la seconde lecture, la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat s'est réunie pour harmoniser les textes. Des explications avec Julien Nyamouigny.
Trois questions essentielles auront focalisé plus le débat sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à la Chambre haute du Parlement. Au nombre de ces questions, les organes de cette institution d'appui à la démocratie, le nombre de membres du bureau de la CENI et enfin la question du genre ou parité. La plus grande majorité des sénateurs estime qu'il est anormal qu'une institution aussi sensible que la CENI ne puisse disposer que d'un seul organe, le bureau. Celui-ci sera jugé parti de ce point de vue, on est loin du standard international, d'où l'assemblée plénière. À propos du nombre de membres du bureau, la majorité s'est prononcée pour 9 membres, en incluant la société civile. Celle-ci était indésirable du côté de la plénière de l'Assemblée nationale. Enfin, la question du genre ou parité, c'est selon les femmes, avec à leur tête la sénatrice de l'opposition Eve Bazaïba, n'ont pas été écoutées dans une salle acquise à la cause masculine. Mais la sénatrice a promis que la lutte n'est pas finie, elle sera longue et même pénible.
Freddy Monsa, dans son édition de mardi 9 février dernier, Le Potentiel, votre journal, à la page 5, dit ceci, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été votée lors de la plénière convoquée lundi à la Chambre haute. Et bon, il est de notoriété publique que ce projet a été voté en des termes différents au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et comment pouvez-vous expliquer cela?
Mais c'est une situation tout à fait normale. Je crois que le véritable problème pour toute commission électorale, c'est de lui conférer une certaine crédibilité, c'est de lui conférer encore une certaine indépendance dans sa façon d'agir. Et si il est arrivé que la loi a été votée en des termes différents, cela ne peut choquer personne, parce que peut-être que la lecture a été faite d'une autre façon au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'en a peut-être pas tenu compte de certaines préoccupations. Elle a été différente au niveau du Sénat. Mais le souci de ces deux chambres, c'est de conférer à la Commission électorale indépendante, comme le nom le dit, une certaine crédibilité dans l'organisation des prochaines élections. Parce que si il arrive qu'on puisse avoir des préjugés sur une commission électorale, vous devez savoir que c'est même toute l'organisation, tout le déroulement du processus électoral qui pourrait être remis en cause.
Oui, Rombo Otaba, dans son édition du mercredi 10 février dernier, l'Observateur, votre journal, dans l'éditorial dit ceci, c'est ni les deux chambres s'empoignent. Comment vous analysez ce qu'on peut qualifier de divergence de vue entre le Sénat et l'Assemblée nationale?
Oui, c'est tout à fait normal, hein, comme l'a dit mon aîné Freddy. De toutes les façons, c'est un peu quand même curieux de constater que au niveau de l'Assemblée nationale, on ait pu passer une énormité comme celle-là, doter toute une commission aussi importante, aussi capitale que la CENI, d'un seul organe, c'est-à-dire le bureau. Moi, je pense que les sénateurs ont démontré qu'ils ont de la sagesse dans certaines de leurs analyses. Donc, il faut absolument qu'il y ait cet organe-là, la plénière, pour contrôler.
L'assemblée plénière.
Oui, c'est absolument incontournable dans une structure comme celle-là. Donc moi, je pense que le Sénat est venu là pour essayer un peu de remettre de l'ordre dans la maison. Mais au-delà de cette question d'approche ou de structure, moi, j'ai des raisons de m'inquiéter. J'ai des raisons de m'inquiéter. Parce que, voyez-vous là, comme il y a ce projet de loi a été voté en des termes différents par les deux chambres, il va nécessiter qu'il y ait une commission paritaire pour harmoniser les vues. Donc, il est exclu que cette loi sur la CENI sera promulguée dans les jours à venir. Alors, voyez-vous, combien de temps nous reste? Alors, mon inquiétude, c'est d'envisager un possible réaménagement du calendrier qu'en 2011, les politiciens nous disent qu'ils ne sont pas prêts pour l'organisation des élections générales. Voyez-vous les dangers qui menacent ce pays. Rappelez-vous qu'en 2005, pendant la transition avec les 1 plus 4, à la fin de la première partie de la transition, les politiciens ont été obligés de constater qu'ils ne pouvaient pas organiser les élections. Ils ont sollicité un délai complémentaire de 12 mois. Ça a provoqué des troubles et il y a eu même des pertes en vie humaine dans cette ville de Kinshasa. Alors moi maintenant, ma crainte c'est de voir que avec la lenteur, vous voyez, il y a la grande opération de révision du fichier électoral qui a été stoppée net.
Qui ne se poursuit plus?
Qui a été stoppée net à partir de Kinshasa. Alors, vous voyez, il reste encore au moins 10 provinces avec tout le temps que cela comporte et avec les moyens qu'il faut. Je me demande si le budget 2010 a prévu des moyens conséquents pour la CENI. Alors donc, c'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte.
Oui, Olivier Baraka, comment ces divergences de vues sont perçues par la population du Nord Kivu?
Par rapport à cette divergence entre la chambre basse du Parlement et le Sénat, au Nord Kivu, les idées sont diverses. Eh bien, d'abord, il y a cette inquiétude qui a failli attaquer la crème du Nord Kivu avec la non-participation de la société civile, comme le voulait l'Assemblée nationale. Ça a semblé inquiéter, quand on sait que le travail de la Commission électorale nationale indépendante est avant tout une activité citoyenne qui sous-entend un processus qui doit impliquer toutes les forces vives de la nation, les acteurs étatiques comme non étatiques. Écoutez, moi, je pense que le travail qu'a fait le Sénat est salutaire avec l'implication de la société civile dans une institution aussi importante comme la CENI. On devrait en tout cas saluer le travail abattu par le sénateur, mais comme l'a dit mon confrère de l'Observateur,
Rombo Tabac,
le travail reste maintenant à la commission paritaire qui doit maintenant harmoniser, mettre un peu du tout à l'étage avant la promulgation de la loi.
Oui, Freddy Monsa, et si ces divergences de vues persistent, qu'est-ce qui pourrait se passer?
Mais, s'il faut s'en tenir au test, d'abord, ils doivent mettre en place la commission paritaire.
Je vous annonce déjà que les travaux dans la commission paritaire sont à cours.
Bon, ok. Si les divergences persistent, les textes sont clairs, c'est le texte voté au niveau de l'Assemblée nationale qui passera.
Et vous pensez qu'il serait sage que l'Assemblée nationale utilise son droit de veto, c'est-à-dire impose son point de vue?
Je vous disais tout à l'heure que la préoccupation doit être celle de conférer une crédibilité à cette commission nationale électorale indépendante.
Et à cet effet, qu'est-ce qu'il faut faire?
Je crois que comme il y a cette chance qu'offre la commission paritaire, il faudra que les membres de l'Assemblée nationale essaient aussi d'apprécier les éléments que le Sénat vient d'apporter dans l'intérêt supérieur de la nation.
Rombo Otaba, le Sénat accepte d'associer la société civile, propose d'ajouter l'organe de contrôle, l'Assemblée plénière. Qu'est-ce qui peut expliquer la réticence de l'Assemblée nationale face à ces deux questions, face à cet organe de contrôle et face à la participation de la société civile?
Je commencerai d'abord par la problématique de la société civile. Bon, je comprends un tout petit peu l'attitude des députés. Voyez-vous, c'est comme on dit, hein, chien chaudé craint l'eau froide. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste encore de la société civile? au regard du vagabondage politique que nous enregistrons dans les chefs des animateurs de cette société civile.
Donc vous pensez comme une certaine opinion que la société civile a perdu toute sa crédibilité et qu'elle est inféodée aux politiques?
Nous constatons le fait. Regardez, jetons un regard rétrospectif depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à aujourd'hui. Constatons. Je pense que là, il ne faut pas, je ne sais pas, être un devin pour constater le fait. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un élément véritablement de la société civile. Il y a un groupe parlementaire, par exemple, à l'Assemblée nationale, qui te dit indépendant, mais qui est inféodé à l'AMPE aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a quand même des citoyens congolais respectables, qui peuvent effectivement jouir de la crédibilité. Il y a un professeur, un éminent professeur comme Eli Kiambokolo, là, il fait la différence. Le révérend Pérékoua, un jugiste de renom. Bon, mais malheureusement, apparemment, cette sommité-là semble s'éloigner des débats politiques en cours en RDC. Mais les opportunistes de la société civile que nous connaissons sont inféodés. Donc, je pense que là, quelque part, les députés ont raison.
Mais il faut aussi préciser que la société civile congolaise est plurielle.
Mais justement, c'est ça justement qui dénote que on ne peut pas vraiment faire confiance. Elle est plurielle parce que il y a des tendances. Il y en a qui vont à gauche, il y en a qui vont à droite. Mais si c'était réellement une société civile au vrai sens du terme, elle ne serait pas plurielle. Je prends par exemple la structure qui regroupe les ONG de défense des droits de l'homme. Là au moins, vous sentez l'unicité. Ils parlent tous un même langage. Donc là, au moins, c'est clair, c'est précis.
Merci, Olivier Baraka. La sénatrice Eve Bazaïba a souhaité que l'on remplace les concepts genre par les mots parité, mais elle n'a pas été entendue. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu cette dame avec sa proposition?
Mais les Congolais sont habitués à jouer avec les termes genre et parité. Qu'est-ce que la sénatrice voulait dégager comme différence? Mais on ne pouvait pas tourner sur le problème de terminologie. Genre et parité, ce n'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était avancer des arguments dans le sens de convaincre les députés du rôle que doit jouer la société civile dans une institution qui est appelée une institution indépendante. Il ne fallait pas tourner autour des terminologies, des vocables. On en a marre dans ce pays. Genre et parité, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Dans ce cas, je voulais tourner au vinaigre, selon moi.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Visite de deux personnalités cette semaine en République démocratique du Congo. Il s'agit du conseiller spécial du président Barack Obama pour la région des Grands Lacs ainsi que de la ministre suisse des Affaires étrangères. Les rapprochements politiques et diplomatiques entre Kinshasa et Kigali portera ses fruits à moyen et long terme. Et ce, malgré les problèmes d'insécurité qui persistent pour les populations de Kivu. Ce sont là les mots d'Howard Wolf. Il est conseiller spécial de la présidence des États-Unis pour la région des Grands Lacs. Il était en visite depuis mardi dernier à Bukavu. Les diplomates ont rencontré la MONUC, les autorités civiles et militaires de la province, ainsi que diverses entités de la société civile. Des rencontres qui lui ont permis de s'imprégner de la situation du site Kivu. À propos de l'insécurité persistante pour la population, Howard Wolf répond « Patience et développement économique ». On l'écoute au micro de Astrid Mujinga.
We continue to support efforts to continue to put military pressure on the FDLR.
Nous continuons à soutenir les efforts, à mettre une pression militaire sur le FDLR, mais aussi une pression politique pour qu'ils puissent rentrer chez eux au Rwanda. Et nous essayons aussi de mettre la pression sur les éléments de la diaspora qui offrent leur soutien au FDLR. Il s'agit d'objectifs clés si l'on veut de la stabilité dans la région.
Olivier Baraka, quelle lecture faites-vous de la visite de Howard Wolf?
Mais moi, je dis la République démocratique du Congo ne peut pas refuser à un autre comme les conseillers spéciaux de Barack Obama de fouler les sols congolais. Mais moi, j'ai toujours dit le salut de ce pays ne viendra pas des États-Unis, de la Suisse ou autre pays. Le salut de ce pays dépend de la volonté des dirigeants que nous avons élus. C'est pourquoi ils sont là avec les institutions démocratiquement établies. La question de est-ce bonheur, mais d'abord le gouvernement qui doit savoir tisser la coopération avec ce pays. Il est libre de tisser avec n'importe quel pays. Mais le salut de ce pays, c'est d'abord de la responsabilité gouvernementale et non des États-Unis ou d'un autre pays.
Oui, Freddy Bonsa, cette visite pourra-t-elle influer sur la situation sécuritaire à l'est du pays?
Ben, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites au niveau de l'Afrique des Grands Lacs, avec les combats qu'on a connus au moins pendant une décennie. Mais je crois que depuis l'arrivée de Barack Obama, l'administration américaine voit les choses autrement que celles précédentes. Elle ne veut plus de la guerre dans notre pays. Elle ne veut plus de la guerre dans la région des Grands Lacs. Or, vous savez bien que la guerre dans la région des Grands Lacs a été sous-tendue souvent par l'exploitation des minéraux. Et c'est à cause de ces minéraux qu'il y a eu des guerres. Les faiseurs de guerre ont profité de cette situation-là pour exploiter les minéraux, les vendre. Je crois que la première des choses qu'on doit faire, et je salue d'ailleurs la décision qui a été prise récemment à l'Union africaine, de tenir un sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'exploitation illégale des minéraux dans la région de Grand Lac. Je crois qu'à partir du moment où, pour ne prendre que le cas de la République démocratique du Congo, si le gouvernement arrive à contrôler les puits miniers, je crois qu'on aura fait un grand pas vers la paix. Parce que ces minéraux de sang, ces minéraux qui sous-tendent la guerre, ont permis à plusieurs États, à plusieurs groupes, de disposer des économies de guerre. C'est avec cet argent qu'ils achètent des armes et qu'ils viennent déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Je crois que si l'envoyé spécial du président Barack Obama est arrivé ici, l'effort doit être mis de ce côté-là. C'est-à-dire arrêter d'une façon concrète l'exploitation illégale des minéraux. Parce que ces minéraux ne sont pas vendus à Bunia, ils ne sont pas vendus à Kigali, mais ils sont vendus à l'étranger, dans des pays occidentaux. Donc c'est un travail d'ensemble qui doit inclure les partenaires étrangers, qui doit inclure l'Union européenne, les États-Unis, pour qu'on puisse poursuivre ceux qui ont fait couler le sang dans notre pays.
Rombo Taba, vous êtes du même point de vue que Freddy Monsa qui dit que si on arrête l'exploitation illégale des minéraux dans notre pays, on peut arriver à solutionner ces problèmes d'insécurité.
Oui, mais effectivement, puisque tout converge vers là, toutes ces guerres-là ont comme sous-bassement l'exploitation illégale des ressources minières. Nous allons bientôt fêter 50 ans de notre accession à la souveraineté nationale. Mais je parie que de là où ils sont, les Kasavubu, les Lumumba et les autres qui se sont battus pour l'indépendance, peut-être le terme est très fort, doivent nous maudire, nous, aujourd'hui, pour se demander qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage-là. Pourquoi ont-ils réclamé l'indépendance, ces ancêtres-là? Si aujourd'hui, vraiment, pour des petits problèmes, nous devons attendre que la lointaine Amérique vienne faire les gendarmes chez nous. Je pense que nous devons nous prendre nous-mêmes en charge. C'est comme l'a dit Olivier tout à l'heure, là, le salut de l'Afrique, ou pour parler de notre pays, le salut du Rwanda, de l'Ouganda, de la RDC, ne viendra pas des États-Unis. En politique, il n'y a que des intérêts qui comptent. Donc, si justement ces gens-là veulent que la paix règne ici, c'est parce qu'ils ont des affaires qu'ils veulent réaliser sur notre dos.
Est-ce que ce n'est pas parce que les pays africains n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes que les pays occidentaux viennent s'impliquer dans la résolution de ce problème?
Mais justement, c'est ce que je disais. Mais quand moi je me plaignais ici de ce que nous avons fait, de l'indépendance que nous avons acquise, c'est justement pour dire que nous on est incapables de solutionner nos petits problèmes. Et maintenant, nous devons attendre que les autres viennent nous imposer pratiquement une solution.
Restons dans la diplomatie pour évoquer la visite de la ministre suisse des Affaires étrangères. Micheline Calmirey a rencontré mercredi dernier, tour à tour, son homologue congolais des Affaires étrangères ainsi que celui de la coopération internationale et régionale. À l'issue de ces entretiens, la patronne de la diplomatie helvétique a évoqué les domaines d'appui de son pays en République démocratique du Congo. Outre des projets liés à la santé dans le sud Kivu notamment, la Suisse entend investir dans le domaine agricole au Congo. Rombo au tabac, la santé et l'agriculture bénéficieront de l'appui du gouvernement suisse. Votre réaction par rapport à ça?
Je vais commenter dans le même ordre d'idée. Bon, regardez un peu seulement sur le plan de la dimension, sur le plan des richesses. Comparez ce que la Suisse a, ce que nous avons. Est-ce que nous avons vraiment aujourd'hui besoin d'attendre que la Suisse puisse nous venir en aide dans les domaines agricoles? Alors que ces pays constituent un scandale. Souvent on dit un scandale minier, un scandale géologique, mais c'est aussi un scandale agricole. Parce que partout où une graine tombe, ça germe et ça produit. Donc je pense qu'une fois de plus, ne nous l'aurons pas. Oui, la coopération, je ne peux pas ici dire que nous devons fonctionner en vase clos. Non, la coopération, elle est là, elle est indispensable. Mais la coopération ne peut venir que comme un simple appui. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de nos terres? Regardez, pour ne pas aller au-delà de Kinshasa, regardez l'interland de Kinshasa. Qu'est-ce que nous faisons de cette forêt, de ces sols? Rien du tout, rien.
Freddy Monsa, êtes-vous d'accord avec Rombo Otaba qui pense que la coopération doit constituer un facteur d'appui, mais que les efforts considérables doivent être faits au niveau interne?
Ben, je crois que ceux qui ont fait les sciences économiques savent bien, très bien que le développement est d'abord un problème interne. Il n'est pas d'abord un problème externe. Ça, c'est un. De deux, je voudrais que à pratiquement 50 ans d'indépendance, il ne faudra pas que nous continuions avec une diplomatie de parade. Nous devons savoir ce que nous voulons et ce que nous voulons qu'on fasse.
Une diplomatie de parade.
C'est dire, écoutez, c'est pas interdit de recevoir les gens qui débarquent, qui rentrent, on les accueille, la caméra arrive, filme, tout cela. Non, il faudrait que les gens qui arrivent ici doivent savoir d'abord ce que nous voulons. Et lorsqu'ils arrivent ici, c'est pour donner leur point de vue ou donner une proposition de manière à ce que nous avancions. Nous ne sommes plus là à cette époque-là de chercher à savoir quoi que ce soit. Nous avons, comme mon ami vient de le dire tout à l'heure, nous avons une terre qui est très fertile. Et aucun pays au monde ne peut progresser, ne peut disposer d'une économie si elle n'a pas de l'agriculture. Je crois bien que la première des choses, le problème de l'agriculture, ce n'est pas tel pays qui va nous le dire. Non. Nous savons, et ce pays est béni, on peut planter du 1er janvier au 31 décembre, partout dans cette République. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois bien que si on doit mettre du poids, si on doit mettre des moyens, c'est au niveau de l'agriculture qu'on doit le faire. Et cela ira de soi, la santé, les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes.
Oui, c'est vrai que nous avons des potentialités, mais... Apparemment, nous n'avons pas assez de moyens financiers pour exploiter ces potentialités. Et lorsque un gouvernement vient nous proposer de nous appuyer dans ces secteurs-là, pourquoi ne pas accepter cette offre?
Il faut commencer d'abord par disposer d'une politique agricole. Est-ce que nous avons cette politique agricole dans notre pays? Si nous en avons, vous n'avez qu'à remettre aux partenaires qui arrivent. Il n'a qu'à lire, il choisit le domaine qui lui convient le mieux. Ce n'est pas lui à dire non. Nous devons d'abord disposer d'une politique agricole. Si nous n'en avons pas, comme une politique d'emploi, une politique salariale, nous devons avoir. Donc, chaque pays doit disposer des vraies politiques de développement national. Si nous avons une politique agricole, mais vous n'avez qu'à remettre le document à votre partenaire, et le problème sera résolu dans quelques temps. Et il sera bien que, bon, je peux intervenir dans tel domaine, je peux faire ceci. Ou bien je peux amener ici, par exemple, comme vous voulez avoir des choses, moi je vais monter une usine avec des machines agricoles, que de continuer toujours à les importer pour les donner à quelques deux pasteurs qui vont faire leur véhicule et puis c'est fini, ça s'arrête là.
Olivier Baraka, l'annonce de Madame Calmireille doit avoir été bien accueillie au Nord Kivu parce que vous savez, la province du Nord Kivu, c'est une province à vocation agricole.
Oui, c'est une province à vocation agricole. Il y a plus d'une décennie que la province du Nord Kivu était appelée le grenier de la RDC, mais aujourd'hui, ce qualificatif a disparu. Mais qu'est-ce qu'on a fait au niveau du gouvernement pour que... Parce que tout doit commencer d'abord au niveau interne. Même si on signait des accords avec la Suisse, et que ça bascule au niveau interne, à quoi bon signer des accords? Si les volontaires seraient qualifiés sur le terrain. Organisons-nous d'abord au niveau interne avant de signer des accords de coopération avec d'autres pays. Écoutez, Guy Marceau, il y a de cela plus ou moins une semaine que la vice-première ministre belge est arrivée, Mme Lorette, le gouvernement a trouvé un autre accord dans le domaine sanitaire. Mais pourquoi on préfère la santé alors que le social ne s'est amélioré? Moi, je préférerais à ce que si on doit signer peut-être un accord avec la Suisse ou avec la Belgique, qu'on essaie de voir d'autres secteurs qui semblent être oubliés. Dans tout ça, il ne voit pas le social. Il y a des arriérés de salaire des agents de l'État. Mais peut-être que l'argent pour d'abord attirer ce problème, on signe des accords liés à la santé, mais le système sanitaire ne change pas. À côté de nous, ici à Goma, il faut aller dans des villages environnants voir comment le choléra est en train d'attaquer d'autres maladies. On n'a pas accès à des fonds de santé élémentaires. Mais à quoi servent finalement ces accords? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait au niveau interne? C'est ça la grande question.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Fonctionnement des assemblées provinciales. En province orientale, les députés exigent la démission du bureau. À l'Équateur, celle du président, et au Katanga, le siège de l'assemblée est toujours scellé. On observe de plus en plus des malaises au sein de certaines assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Malaise soit entre les députés et les bureaux, soit encore les députés entre eux. Certaines sources affirment que la mauvaise gestion des ressources et les querelles politiciennes figurent parmi les causes de ces dysfonctionnements. Illustration avec Kelly Nkouté.
Le fait le plus récent, c'est dans la province orientale où les groupes parlementaires de réflexion demandent la démission immédiate du bureau de l'Assemblée. Un des griefs mis à la charge du bureau de l'Assemblée provinciale de la province orientale est la malversation financière. Le même problème se pose aussi en Mbandaka. Depuis samedi dernier, les séances plénières sont suspendues à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est suite à une motion incidentielle de l'honorable Jean Gautran Ibambé qui demandait que la police des débats soit retirée au président de l'Assemblée provinciale, qu'il accuse des détournements des deniers publics. Une grande majorité des députés accusent aussi les membres du bureau d'être complices de leur président. Au Kassai-Oriental, c'est des députés provinciaux qui brillent par l'absentéisme aux plénières depuis l'ouverture de la session du 15 janvier. Ce fait a été relevé au cours de la plénière de lundi dernier à travers une motion d'information. Un des députés provinciaux, Patrick Balouba-Logi, élu de la circonscription de Cabinda, estime que le manque d'engouement à l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental est lié à la situation socio-économique précaire des députés provinciaux. Au Katanga, le siège de l'Assemblée provinciale est toujours fermé après l'incident survenu il y a environ 2 semaines entre certains députés provinciaux et un groupe de personnes non identifiées venues prendre part à la plénière. Signalons que si dans certaines provinces, les assemblées provinciales ne fonctionnent toujours pas bien, cependant, dans d'autres, les travaux se déroulent normalement. C'est le cas du Sud-Kivu, du Bas-Congo, du Bandundu, pour ne citer que ceux-là.
Freddy Monsa, je rappelle que vous êtes directeur des publications au quotidien Le Potentiel. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et quel est l'état des lieux que vous pouvez dresser du fonctionnement des assemblées provinciales à ces jours?
Ce que je pourrais vous dire dans un premier temps, c'est que c'est un peu difficile dans le sens que on n'a pas eu cette pratique d'exercice politique pendant un certain temps. Et qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage démocratique. Et cela, souvent, peut entraîner des dérapages, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Il y a d'abord le problème de la maturité politique de ces gens qui sont élus. Et ensuite, on ne peut pas nier ça, il y a les vieux sorciers ou les vieux démons qui existent encore. Et à chaque fois qu'on veut un peu leur faire revenir à la raison, il y a cette tendance de résistance qu'on observe chez eux. Je crois que le premier facteur, c'est d'abord l'apprentissage démocratique. Je crois que nous avons ces élections de 2006 qui ont permis à ce qu'on puisse revenir sur la voie de la démocratie. Et la démocratie est exigeante parce que elle ne se fait pas comme ça. Et les gens doivent s'habituer avec ça. C'est ainsi que lorsqu'il y a des débats contradictoires, on arrive toujours à ce genre de dérapage. Il y a la maturité politique. Ces gens qui ont été élus, ils sont sortis d'où? La plupart du néant. Et peut-être par des circonstances politiciennes, ils sont devenus des politiciens. Maintenant, quelle est la lecture qu'eux, ils font de la politique? C'est ça le drame. Et la plupart, ils croient qu'en arrivant en politique, il faut s'enrichir. Et on arrive à ce genre d'histoire de détournement des deniers publics. Et ensuite, il y a l'impunité. Ces gens qui détournent n'ont jamais été entendus, n'ont jamais été punis. Bien au contraire, ils sont toujours là. Ils deviennent arrogants. Et il y a les vieux démons, il y a ces gens-là qui croient qu'il n'y a que...
Quand vous parlez des vieux démons...
Ce pays a quand même une histoire, non? Il y a quand même une histoire, nous ne prenons pas ça en cours de route. Il y a quand même des gens qui ont déjà exercé certaines fonctions politiques et ils croient qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire. Sans eux, ce pays ne marcherait pas. Parce que si vous prenez un peu le cas du Katanga, où des jeunes gens sont venus tabasser les députés provinciaux, mais ça c'est quelque chose de très grave. C'est qu'on ne prépare pas cette jeunesse à assumer ses futures responsabilités. On est en train de la détruire, de l'assassiner même, entre guillemets.
Rombo Taba, à part les facteurs que Fred Dimons vient d'évoquer, il a évoqué notamment l'immaturité politique, l'apprentissage de la démocratie, et le vieux démo, hein, ça ce sont ces termes, et l'impunité. À part ces facteurs-là, quels sont les autres facteurs qui peuvent nous aider à expliquer cette situation que nous vivons dans les différentes les assemblées provinciales ici au Congo?
Bon, il faut peut-être aussi ajouter les facteurs de vagabondage politique, hein. Il y a des exemples que je peux évoquer. Partons de la ville de Kinshasa. Vous voyez l'opposition qui avait la majorité en termes numériques a laissé passer le poste de gouverneur à l'autre camp. Et on parlait des espèces sonnantes qui ont fait l'affaire. Et vous voyez dernièrement ce qui s'est passé à l'Équateur. Bon, moi, je ne voudrais pas me limiter à ce niveau-là, mais moi, je voudrais plutôt, à ce propos, attirer l'attention des auditeurs et des futurs électeurs. Les députés sont des élus du peuple. Donc là où ils sont, ils doivent se dépasser, défendre les intérêts de ceux qui les ont élus. Alors, dans ce qui se passe actuellement dans les assemblées provinciales, il faut avouer qu'il y a des députés qui se surpassent, qui font effectivement la fierté de leur mandat, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des assemblées provinciales. Mais la plupart, il faut avouer, il faut stigmatiser le comportement de certains qui se laissent facilement corrompre.
Donc, il y a un problème d'homme.
Effectivement, justement, c'est là où je voulais attirer l'attention de sélecteurs sur les choix à faire prochainement, sur les choix des hommes. Prenons par exemple ici, dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce que les députés provinciaux font? Ils ont pratiquement laissé Martin Fayoulou seul à l'avant-plan à mener les combats. Regardez l'état de la ville.
Alors que l'Assemblée provinciale à Kinshasa est dominée par l'opposition.
Oui, mais justement...
On ne sait pas cette opposition jouer son rôle.
Non, je dis pas, aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou qui est seul vraiment
c'est la peine due à quoi?
J'ai stigmatisé le vagabondage politique ici, la corruption. Donc, il suffit que la nuit, quelqu'un passe avec les mallettes pour qu'il se taise. Est-ce que, telle que notre ville, la capitale de la RDC, le miroir de ce pays, telle que cette ville est gérée, l'insalubrité que nous vivons, la voirie, il ne faut pas que nous laissions berner par les travaux qui se font au boulevard du 13e. Il faut aller voir l'avenue à Sosa. La périphérie de Kinshasa. Donc, les députés, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a aucune motion, par exemple, de fiance qui a été adressée jusque-là au gouverneur de province. Le grand problème, c'est celui-là, c'est la corruption, le vagabondage politique des députés. Alors, il faut que nous soyons prudents l'année prochaine.
Olivier Baraka, comme viennent de l'évoquer Freddy Mansa et Rombo Otaba, il y a un sérieux problème d'hommes. Et si, effectivement, il y a un problème d'hommes, est-ce que cela n'est pas dû au fait que le travail n'a pas été fait en amont? C'est-à-dire que les partis politiques, au départ, n'ont pas su identifier les personnes qu'il fallait mettre sur leur liste, les personnes qui devaient les représenter dans les différentes institutions. Est-ce que le problème n'est pas lié à ce travail-là qui devait être fait en amont par les partis politiques?
Ben, justement, c'est une leçon que nous devons tirer. Aujourd'hui, le tableau est presque sombre. Écoutez, je vais abonder dans le même sens que les deux confrères avec qui nous sommes. Des différents facteurs qui sont à la base du fonctionnement de nos différentes assemblées provinciales. Nos deux conseils, nous les ont évoqués. Il y a la matérialité politique, il y a des gens qui se sont improvisés. Ils sont improvisés parce que c'était le début du jeu, le début de l'apprentissage démocratique. on n'a pas une véritable culture du choix de nos élus. Voilà la conséquence, je dis. Comme je viens de le souligner, c'est une leçon que nous devons enregistrer, de savoir en 2011 si nous devons arriver à voter aussi, même s'il mérite à la place, parce qu'il mérite aujourd'hui, ce sont des spéculations. Un coup derrière les intérêts, aujourd'hui, on est qui vous. C'est le pire. Imaginez depuis le 15 janvier, lors de l'ouverture de la question ordinaire de l'Assemblée provinciale, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore siégé, c'est anormal. Donc, on tourne autour des intérêts politiques, on ne voit pas l'intérêt du peuple qui nous a mandaté pour faire le travail. Et maintenant, aujourd'hui, on est sur vous, c'est le chaos total parce que il n'y a pas de collaboration visible entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, parce qu'il y a des faisants qui estiment que notre intérêt n'est pas de ce côté, on doit l'améliorer, tout ça. C'est autant de facteurs qui sont en train de bloquer aujourd'hui le fonctionnement des assemblées provinciales. Justement, un problème d'hommes. Il y a ceux qui sont aux hémicycles ne savent pas exactement leur rôle.
Freddy Mossa, que pouvez-vous proposer pour prévenir ces spectacles auxquels on assiste aujourd'hui, pour que ce genre de faits que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui ne puissent pas se produire dans la prochaine législature?
Je crois que cette tâche revient d'abord aux partis politiques. Les partis politiques doivent être d'abord comme une école de la nation, une école civique, une école du patriotisme. Parce que ce sont les partis politiques qui choisissent les candidats et qui les proposent. Donc si les partis politiques ne sont pas organisés, si les partis politiques sont une affaire familiale, une affaire de copains, eh bien, on est encore dans le tunnel. Je crois que le grand travail doit être fait de conscientisation, d'information, d'éducation, doit être fait au niveau des partis politiques. Nous devons disposer des partis politiques, disons, classiques, pour qu'ils sachent qu'ils sont l'école de la vie, l'école de la nation.
Merci, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Jean-Claude Ntiala était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, sous la supervision de Martin Sebujangwe et devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.
Okapi.